Éclairage.
Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Édouard Rosset.
Après un an de débats passionnés, les députés ont voté tout début juin 2004, en première lecture, la Charte de l'environnement qui inscrit le principe de précaution dans la Constitution. Cet épisode de la vie parlementaire et constitutionnelle est un moment historique pour les uns, alors que d'autres, tant dans les milieux politiques, de droite comme de gauche, que dans certains milieux scientifiques, expriment leur crainte, pour ne pas dire leur malaise. Alors que dit concrètement ce principe de précaution ? Regardons le texte de l'article 5 précisément de la Charte de l'environnement, je cite « Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leur domaine d'attribution, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. » Alors pourquoi tant de polémiques autour d'un texte qui permet en fait à l'environnement d'entrer dans la Constitution et selon les termes officiels de consacrer le droit de chacun à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ? Élément de réponse, éclairage de ce débat avec notre invité aujourd'hui, M. Jean Foyer, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice du général de Gaulle de 1962 à 1967, autrement dit dans le gouvernement Pompidou. Monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Merci d'avoir répondu présent à l'invitation de Canal Académie. Cette question du principe de précaution, vous vous y êtes intéressé, je dirais, par nature, de par vos fonctions, vos anciennes fonctions, mais aussi à travers votre travail désormais quotidien d'académicien. Alors, tout d'abord, Monsieur Foyer, une réaction d'ensemble à cette charte de l'environnement que vous inspire l'introduction de ce thème, il est vrai, d'actualité dans la Constitution française.
Oui, bah écoutez, on a fait beaucoup de tapage à propos de cette charte de l'environnement et de l'introduction du principe de précaution dans la Constitution française. Il faudrait même rappeler que nous ne sommes pas ici sur un terrain neuf et que le principe de précaution était déjà entré dans la loi. Il avait été édicté dans le texte connu sous le nom de loi Barnier de 1995 et il a été ensuite introduit dans le Code de l'environnement qui a été préparé et publié dans l'année 2000, où il figure toujours d'ailleurs, puisqu'il n'est pas abrogé, dans l'article L110.1. Vous trouviez, dans ce texte, il était dit qu'elle s'inspire, je vous lis le début de l'article 110.1, « Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. » Paragraphe 2. Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elle s'inspire dans le cadre des lois qui en définissent la portée des principes suivants. Primo, le principe de protection selon lequel l'absence de certitude compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable.
Donc ça, c'est le texte
de 1995. Aujourd'hui, article L110.1 du Code de l'environnement.
Donc rien de bien nouveau, finalement.
Il y a tout de même des choses nouvelles, on va y revenir tout à l'heure, parce que certaines craintes manifestées à propos de ce principe de précaution ont été prises en considération par le législateur et la formule qui a été adoptée avant-hier, enfin le 1er juin, n'est pas tout à fait identique à celle que vous venez de voir. Enfin, nous allons avoir l'occasion d'en parler quand nous serons rendus un petit peu plus loin dans la suite de notre conversation.
Alors, donc, concernant le fond, n'est-il pas normal, monsieur le ministre, finalement, que certaines préoccupations élevées au rang de grande cause nationale, hein, comme l'environnement, trouvent leur définition ou au moins un cadre juridique et constitutionnel ?
Oui, un cadre juridique, elle l'avait. Elle l'avait dans le Code de l'environnement, elle l'a toujours. L'opération a consisté à vouloir faire entrer le principe de protection de l'environnement dans la Constitution elle-même et à adosser, c'est l'expression du président de la République, une charte d'environnement à la Constitution. Alors, l'opération intellectuellement qui a été opérée se présente de la manière suivante. La Constitution du 4 novembre 1958 comporte un préambule qui est un préambule de référence. Le préambule fait référence tout d'abord à la Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789, qui est un texte qui est resté distinct matériellement, formellement, du texte constitutionnel, et ensuite aux principes économiques et sociaux qui avait été affirmé dans le préambule de la Constitution de 1946. Alors, l'idée présidentielle, car toute l'opération a été conçue et voulue par le président de la République, qui en a parlé deux fois à Orléans et à Avranches, ça a été d'avoir, au lieu d'avoir une référence bipartite, si vous voulez avoir une référence tripartite, on ferait dorénavant référence à la fois à la Déclaration des droits de l'homme de 1789, aux principes économiques et sociaux qui sont dans le préambule de la Constitution de 1946, et enfin à l'environnement. Et comme la référence droits de l'homme trouve ensuite son développement dans la Déclaration du 26 août 1789, que la référence aux droits économiques et sociaux a son développement dans le préambule de la Constitution de 1946, on a voulu que la référence à l'environnement eût un développement dans un texte qui est le principe de protection, qui est la charte de l'environnement, qui se trouve maintenant adossée à la Constitution, en ce sens que si son texte n'est pas incorporé, ses considérants et articles ne sont pas incorporés dans la loi constitutionnelle, ces textes ont néanmoins désormais la force constitutionnelle et que le Conseil constitutionnel pourrait se fonder sur la charte de l'environnement pour déclarer non conforme à la Constitution une loi votée par le Parlement qui ne respecterait pas telle ou telle règle de la charte de l'environnement. Alors voilà la construction juridique qui a été faite.
L'armature.
Alors je vous le disais tout à l'heure, cette armature, le président de la République montre depuis un certain temps un intérêt louable, d'ailleurs, à la protection de l'environnement. Il avait fait à ce sujet une grande déclaration lors de la conférence qui s'était tenue en Afrique du Sud à Johannesburg. Et en France, il a parlé deux fois de ces questions, et notamment de l'idée d'adosser une charte de l'environnement à la Constitution. Il en a parlé dans un discours prononcé à Orléans, et un autre qu'il a prononcé à Avranches. Alors voilà d'où est partie l'opération. Alors, par la suite, la préparation du texte a été longuement mûrie, si j'ose dire. Le gouvernement avait constitué une commission dont il avait donné la présidence à un éminent membre de l'Académie des sciences, M. Yves Coppens, spécialiste de la paléontologie. Et sa commission a longuement délibéré, procédé à de très nombreuses auditions avant d'élaborer un texte. Ce texte a été ensuite soumis à trois académies, à l'Académie de médecine, à l'Académie des sciences et à l'Académie des sciences morales et politiques avant de passer au Conseil d'État. Voilà quelle a été la préparation. Et le projet de loi constitutionnelle a été adopté par le Conseil des ministres et déposé en premier lieu sur le bureau de l'Assemblée nationale. Il a été discuté la semaine dernière et définitivement adopté mardi de cette semaine.
Alors,
voilà l'état de la procédure.
L'Institut de France, Monsieur Jean Foyer, s'est effectivement, vous le disiez, engagé dans ce débat, avec notamment la formulation d'un avis, le courant mai 2004. Que dit cet avis exactement ?
Eh bien, d'abord, vous avez plusieurs avis, puisque l'Institut de France ne s'est pas prononcé encore, mais que ce sont deux académies qui appartiennent à l'Institut de France, l'Académie des sciences et l'Académie des sciences morales et politiques, qui se sont prononcés par un avis distinct, cependant que l'Académie nationale de médecine, qui ne fait pas partie de l'Institut de France, émettait également un avis. Or, on peut dire que, d'une manière générale, les avis des académies ont été plutôt prudents, pour ne pas dire qu'ils ont été un peu inquiets. Et qu'effectivement, vous êtes, avec le principe de précaution, en présence d'une espèce de machine infernale et qui risque d'aboutir à des conséquences tout à fait dramatiques. Oui.
Quelle est votre définition, M. Foyer, du principe de précaution en tant que tel ?
Écoutez, le principe de précaution maintenant...
Est-ce qu'il y a définition universelle de ce principe de précaution ?
Oh non, il n'y a pas de définition universelle, parce qu'on a parlé de principe de précaution, mais il n'a jamais été formulé expressément avant le texte actuel. Et comme je le remarquais tout à l'heure, il n'est pas tout à fait formulé de la même manière aujourd'hui qu'il ne l'était dans l'article 1er, dans la loi de 1995, dans la loi Barnier. Dans la loi de 1995 et dans l'article L110.1 du Code de l'environnement, qui sont les textes à l'heure actuelle en vigueur, tant que la révision constitutionnelle n'aura pas été définitivement adoptée et promulguée, à l'heure actuelle, si vous relisez la définition, ce qu'on peut appeler la définition du principe de protection dans la loi Barnier et le Code de l'environnement, on vous dit, c'est pas parce que le risque de réalisation n'est pas certain qu'il ne faut pas en prendre motif pour ne pas interdire telle ou telle chose qui pourrait être dangereuse. Le texte qui a été adopté mardi dernier, lui, est d'une manière plus positive, puisqu'on dit que dans certaines circonstances, les autorités administratives qui veillent par application au principe de précaution et dans ces conditions-là, procèdent à la mise en œuvre de procédures d'évaluation et prennent des mesures provisoires. Enfin, on a inversé un peu les perspectives.
C'est ce qu'on peut dire, en fait, on peut appeler cela, peut-être en termes vulgaires, une usine à gaz, une véritable usine à gaz, non ?
Ben, ça peut être effectivement une usine à gaz. Et tout le monde l'a bien un peu compris, en ce sens qu'une usine à gaz, ça peut exploser.
Oui.
Et là-dessus, vous avez, dans l'avis de l'Académie des sciences, et encore, peut-être mieux encore, dans celui de l'Académie de médecine, une démonstration. Et une démonstration qui a eu une conséquence sur laquelle ont insisté pendant les débats à la fois le rapporteur, je devrais dire la rapporteure, qui était Mme Kosciusko-Morizet, et le garde des Sceaux, M. Perben, ont beaucoup insisté au cours des débats pour dire que le texte tel qu'il est rédigé, ce principe que d'après le texte tel qu'il est rédigé, le principe de précaution s'applique dans la mesure nécessaire à la protection de l'environnement, mais qu'il ne s'applique pas, et ça c'est une victoire obtenue par l'Académie de médecine, qu'il ne s'applique pas à la protection de la santé. Et l'Académie de médecine fait remarquer des choses qui sont tout à fait topiques. Si le principe de protection avait été en application et s'était appliqué en matière de santé il y a deux siècles, eh bien, on n'aurait jamais institué la vaccination antivariolique. Or, cette vaccination antivariolique a eu des effets extraordinairement bénéfiques, puisque lorsque j'étais jeune, et même ceux qui sont moins jeunes que moi, ont encore dans leur jeunesse subi une vaccination antivariolique, et qu'aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé a supprimé l'obligation de la vaccination antivariolique, parce que, pour l'instant, on a éradiqué complètement cette maladie. Or, il est certain que, dans quelques cas, la vaccination antivariolique a des effets dangereux et que dans quelques cas, elle a entraîné des morts.
Mais il ne faut pas en faire une généralité.
Écoutez, si vous auriez pu voir à ce moment-là des mouvements comme il en existe un certain nombre à l'heure actuelle, élever des protestations et dire il en existe d'ailleurs des mouvements, car il y a des ligues contre la vaccination et il y a même un membre de l'Académie des sciences morales et politiques qui en est membre, mais je ne le nommerai pas. Qui se serait élevé en disant il faut supprimer cette vaccination qui tue des gens. effectivement, la vaccination a provoqué des réactions dangereuses dans un certain nombre de cas, mais elle a protégé la vie de milliards de personnes.
Oui, on retrouve d'ailleurs le débat aujourd'hui avec les OGM, les organismes
avec les OGM, ce qui est d'ailleurs assez remarquable dans le cas des OGM, c'est que avant de les exterminer tous, il faudrait peut-être quand même regarder un peu plus quels inconvénients ils peuvent présenter. Mais le principe de précaution, appliqué, on en connaît une application. Vous en penserez ce que vous voudrez, moi je trouve que c'est un peu excessif. Lors de la construction, il n'y a pas très longtemps, d'une autoroute, on a constaté qu'on allait être obligé d'amputer une forêt ou un bois dans lequel existait une variété de coléoptères qui ne se trouverait que dans ce bois-là. Et alors on a dit, protestation, et ils ont fait caler l'administration parce qu'il fallait conserver l'existence de ces coléoptères au nom de la sacro-sainte biodiversité. Alors la question est quand même de savoir si la création est faite d'abord pour l'environnement ou si elle n'est pas d'abord faite pour les hommes.
Alors, voilà le décor bien planté, monsieur le ministre. Jean Foyer, vous êtes l'invité de l'émission Éclairage sur Canal Académie aujourd'hui. Nous allons marquer une première pause et tout de suite après, nous allons entrer dans le détail justement de ces nombreux reproches
comme vous l'entendrez
faits au principe de précaution. À tout de suite.
Canal Académie.
Ouvrir et découvrir les livres des académiciens, c'est ce que vous propose tous les jours Radio Canal Académie. À différentes heures de la journée, les membres de l'Académie des sciences morales et politiques vous parlent de leurs écrits, notamment historiques, philosophiques et économiques. Les livres des académiciens, leurs lectures, les prix qu'ils décernent chaque année, Radio-Canal Académie leur donne la parole. Connectez-vous et écoutez.
Vous écoutez Canal Académie.
Faut-il sacraliser le fameux principe de précaution ? C'est le thème de notre émission sur Canal Académie aujourd'hui et nous en parlons avec monsieur Jean Foyer, ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice du général de Gaulle de 1962 à 1967, garde des Sceaux entre autres bien sûr, puisque monsieur Foyer a de nombreuses autres attributions, notamment ministérielles, à son actif. Mais Jean Foyer, vous vous intéressez de près à cette question dans le cadre de vos travaux académiques aujourd'hui. Alors on entend
vous
beaucoup.
Vous permettrez d'ajouter, si vous voulez,
je vous en prie.
Je ne vais pas faire ma publicité personnelle, mais enfin que ma profession, c'est celle d'enseigner le droit. Je suis agrégé des facultés de droit et j'ai enseigné le droit pendant 40 ans de ma vie. Et à la fin de ma carrière, j'ai appartenu pendant plus de 20 ans à l'Université de Paris 2. Oui.
Alors, précision très importante, justement, dans le cadre de notre conversation. On entend beaucoup de critiques sur le caractère dissuasif du principe de précaution à plusieurs niveaux. Tout d'abord, celui de la recherche. À force de prendre des précautions, la recherche va s'en ressentir, estiment certains. Pour d'autres, le principe de précaution revient d'ailleurs à un principe de suspicion, dont on imagine aisément l'impact sur les différentes initiatives. Et puis, autre argument invoqué, et pas des moindres, le risque de juridiciarisation de nombreux actes de la vie quotidienne en matière économique, politique ou scientifique. Alors, passons en revue ces différents points, monsieur le ministre, si vous le voulez bien. Tout d'abord, le frein à la recherche qui est invoqué. Est-ce que là, il y a réellement problème avec ce principe de précaution ?
Écoutez, je crois qu'il faut... J'allais presque vous dire qu'il est presque bon d'inverser quelque peu votre problématique là tout à l'heure. Si vous me permettrez quelques observations de caractère général, quand on lit les travaux préparatoires et qu'on lit un peu les textes, visiblement, la pensée du gouvernement, la pensée de la commission des lois de l'Assemblée nationale et la volonté de l'Assemblée qui a suivi sa commission sur ce point a tout de même été de limiter les dégâts du principe de précaution. Et d'éviter ce qui était un grand risque, qui avait d'ailleurs été soulevé, notamment dans l'avis de l'Académie des sciences, c'était de voir se développer, car ils existent déjà, des organisations et des associations qui se seraient mises à soupçonner, à suspecter et à espionner toute espèce de travaux de recherche et autres, et qui les auraient dénoncés en disant « il faut les interdire, le principe de précaution, etc. », se mêler de contrôler les laboratoires et tout ça. Et c'est un risque qui n'était pas imaginaire.
Donc il est écarté aujourd'hui dans le texte.
Enfin, il est écarté, vous m'avez dit tout à l'heure, il n'était pas imaginaire. car vous avez des groupements. Les groupements écologistes nous diront qu'ils sont de deux espèces. Il y en a certains qui sont des groupements de personnalités qui sont nettement convaincus, dans certains cas, j'allais dire un peu obsédés, par les dangers que la science moderne, que la technique moderne fait courir à l'environnement, fait courir à l'écologie. Il y a des gens qui sont très, très sensibles à cette idée-là. Nous parlions tout à l'heure de la biodiversité. Eh bien, telle catégorie d'insectes, il faut la préserver. Ça a conduit à des choses qui m'ont toujours paru un peu curieuses. Mais enfin, quand on pense que sur certains points du territoire français, à des époques qui ne sont pas très lointaines, vous avez ces organisations qui ont importé quoi ? Qui ont importé des vipères parce qu'il n'y en avait plus. Bon. Et de même, si vous lisez même la presse d'aujourd'hui, vous voyez qu'il y a un problème à propos de la protection des loups. Alors, il y a des loups qui, dans les régions alpestres, qui s'en vont tuer les moutons des bergers. Et alors, il y a toute une imagination, il faut limiter la destruction des loups, il faut protéger les loups. Enfin, est-ce que vraiment les loups sont nécessaires à la survie de l'humanité ? Oui. C'est une question qu'on peut poser.
Donc, que dit le texte concrètement sur...
Attendez, seulement il y a ça. Parce que, d'un autre côté, vous avez des groupements qui sont beaucoup plus politisés, qui cherchent à attirer des voix lors des élections et qui ont comme tactique électorale de flanquer la frousse à ceux qui les entendent. En leur dire, il ne faut pas faire ça, il y a des dangers abominables, etc., etc. Vous en avez des exemples, vous en avez des exemples tous les jours. Alors, à cet égard, bon, il y a tout de même, dans le texte qui a été voté par l'Assemblée nationale, et même de départ dans le projet du gouvernement, de voir, et ça me paraît important, à qui s'adresse le principe de précaution. Et quelles sont les personnes que le principe de précaution habilite à prendre des mesures. Alors là, il y a quand même une grande différence entre le principe de précaution et le principe de prévention qui, lui, est prévu dans l'article 3. Car le principe de précaution crée une obligation à la charge de ceux qui créent le risque.
Ça peut être les entreprises, ça peut être une décision politique,
mais oui.
entre autres.
Ça peut être à ce moment-là le laboratoire à qui on va dire vous créez un risque en faisant ci ou ça. Or, le principe de précaution s'adresse, ne crée d'obligation, si vous voulez, à supposer que ce soit une obligation, ne le crée qu'aux autorités publiques. Elles sont donc les seules qui sont habilitées à prendre des mesures en vertu du principe de précaution. Alors, c'est tout de même une certaine protection. Et ces autorités publiques, c'est pas la notion d'autorité publique a soulevé quelques inquiétudes, bien entendu, car dans ce texte, tout était matière à soulever des inquiétudes, mais on en a une définition des autorités publiques dans une convention internationale qui est la convention d'Aarhus. C'est aux Pays-Bas, laquelle a employé l'expression d'autorité publique. Et je pense que dans le texte que nous avons ici, il convient d'entendre les autorités publiques dans le même sens. Par conséquent, c'est normalement au Parlement, ou c'est au gouvernement, ou c'est à une autorité décentralisée de prendre des mesures, oui, lorsque la conjoncture prévue par l'article 5 se présentera. Alors, on a donc, à ce moment-là, si vous voulez, un peu limité les dégâts, en canalisant les réclamations qui peuvent être formées, en les canalisant et en forçant à les adresser aux autorités publiques qui seraient compétentes pour y répondre et qui ne sont pas l'autorité judiciaire. Parce que alors là, incontestablement, vous avez soulevé cette question tout à l'heure, c'est un des dangers de la société actuelle que sa juridictionnalisation excessive. Oui.
Nous allons y revenir d'ailleurs à cette problématique, mais si on reste vraiment sur le problème de la recherche, est-ce que le principe de précaution peut s'avérer un frein total à l'avancée de la recherche ?
À l'avancée de la recherche, il supposerait tout d'abord que ce soit la recherche elle-même, et et non pas son résultat, si on veut l'interpréter intelligemment, que ce soit le fait d'entreprendre une recherche qui soit considérée comme dangereuse pour l'environnement, ou ce à quoi la recherche a abouti, à la mise au point d'un produit qui est de nature à empoisonner les cours d'eau, à faire disparaître telle ou telle espèce. Je pense que tout de même, il ne faut pas aller au point de dire que toute espèce de recherche pourrait être interdite en vertu du principe de précaution.
Oui, il y a, c'est vrai, certaines limites à ne pas dépasser, je dirais, naturellement. Mais lorsque l'on va trop loin dans ce que l'on pourrait appeler également la suspicion, là, il y a un réel frein possible à l'initiative,
oui,
en tout genre.
Oui, je crois que tout de même, le frein à l'initiative, c'est que d'abord, premièrement, dans ce cas-là, il faut certainement les envoyer promener, mais que dans ce cas-là, la réclamation doit s'adresser à une autorité publique et que vous ne pouvez pas assigner le laboratoire devant le juge des référés en lui demandant une ordonnance interdisant de continuer la recherche sur ce point.
Alors, la juridiciarisation croissante, hein, il est vrai que l'article 5 que je citais tout à l'heure, celui relatif au principe de précaution dans la Charte de l'environnement, ne comprend pas la mention « dans des conditions définies par la loi ». Autrement dit, toute innovation ou décision pourrait être attaquée devant les tribunaux en raison d'un risque hypothétique. C'est dangereux, ça, non ?
Oui, enfin, ce qui pourrait être attaqué devant les tribunaux, c'est une décision d'une autorité publique qui refuserait de prendre en considération le principe de précaution. Vous ne pouvez pas, en vertu de l'article 5, vous ne pouvez pas aller directement assigner quelqu'un en lui interdisant de faire quelque chose en vertu du principe de précaution. La seule autorité qui puisse intervenir, c'est une autorité publique. Cette autorité publique, elle est législative ou elle est exécutive, mais elle n'est pas judiciaire.
Alors, il y a la démocratie participative. D'ailleurs, le texte va dans son renforcement, hein, les décisions publiques. Il y a une dose de démocratie participative dans le régime actuel de démocratie représentative fondée sur l'élection. Est-ce que l'on peut justement faire la différence entre les deux ? C'est en fait l'article 7 qui stipule qu'en proclamant le droit de chacun de participer à l'élaboration des décisions publiques, eh bien, cet article introduit une dose de démocratie participative dans le régime actuel de démocratie représentative.
C'est vrai, mais ce n'est pas, il faut le dire, une innovation, parce que c'était déjà dans des textes antérieurs et dans des conventions internationales. Mais là, je crois tout de même qu'il faut entendre, mais sur ce point, on aurait peut-être pu le préciser davantage, je crois que ça n'aurait pas été mauvais, mais enfin, je crois qu'il faut l'entendre de la manière suivante. Il faut s'entendre sur le sens qu'on va donner au droit de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. On ne peut pas tirer de ce texte que, quand le texte dit « toute personne a le droit », etc. On est allé trop loin dans cette rédaction. C'est ce que les sciences morales avaient essayé de faire remarquer. Mais que toute personne a le droit de décider ou même de prendre part à la décision. Parce que si vous admettez ça, c'est un renversement constitutionnel formidable. C'est le renversement du principe démocratique formulé par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, qui vous dit que le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation, qu'aucune personne, qu'aucun corps ne peut exercer d'activité qui n'en démane expressément. Alors, on va quand même pas renoncer au principe de la souveraineté nationale pour la défense de l'environnement, oui. Ce qui paraît tout de même tout à fait disproportionné au danger.
Donc, Jean Foyer, la démocratie participative a ses limites.
Je crois que démocratie participative, il faut dire dans ce cas-là, l'idée de participation et l'idée de démocratie ne sont nullement antinomiques. Si vous repreniez, par exemple, les écrits constitutionnels de René Capitan, il a fait un cours de doctorat à la faculté de droit de Paris sur le thème « démocratie et participation ». Mais la participation démocratique, c'est la participation par l'élection ou la participation par le référendum. Ce n'est pas la possibilité pour n'importe quel corps d'imposer une décision ayant la force d'un règlement ou d'une loi, quand elle n'est pas, quand ce corps n'est pas investi de la légitimité électorale par la par l'élection.
Donc il y a des limites à l'exercice.
Je crois que il faut entendre ce texte-là que d'abord toute personne a le droit de s'adresser à l'autorité publique et que d'autre part qu'il serait bon que dans ces domaines l'autorité publique fasse ce qu'elle a fait très largement, ce que le gouvernement a fait très largement lors de la préparation du projet de loi constitutionnelle, c'est-à-dire de consulter beaucoup de monde, d'écouter beaucoup de monde, mais le droit de décision, il n'appartient, il ne peut appartenir qu'à l'autorité publique.
Jean Foyer est l'invité de l'émission Éclairage sur Canal Académie aujourd'hui. Jean Foyer, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, nous parlons du principe de précaution introduit dans la Charte de l'environnement qui vient d'être votée en ce mois de juin 2004 par l'Assemblée nationale. Alors, Monsieur Foyer, c'est un fait nouveau ce principe de précaution. Pourquoi prend-il autant d'importance dans les esprits aujourd'hui selon vous ?
Écoutez, ce principe de précaution... Il a une histoire, n'est pas extrêmement ancienne, mais enfin, elle remonte tout de même à plusieurs décennies. Ce sont les Allemands qui ont été les inventeurs de l'expression du principe de précaution. Vous trouverez d'ailleurs sur ce point des développements tout à fait intéressants dans le rapport de Madame Kosciusko-Morizet. Alors, ensuite, eh bien, alors il est entré dans des conventions internationales. En 1987 et 1990, on a visé le principe de précaution dans des conventions internationales sur la protection de la mer du Nord. Et puis ensuite, ce principe de précaution a trouvé une expression solennelle, si j'ose dire, dans la déclaration de Rio. C'est le principe 15 de la déclaration de Rio. En cas de risque de dommages graves ou irréversible. L'absence de certitude scientifique ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement. C'est le principe de précaution, mais qui n'est même pas nommé dans cette rédaction-là. Et alors ensuite, vous avez trouvé une mention du principe de protection dans le traité de Maastricht sur l'Union européenne. Et enfin... Vous l'avez vu apparaître dans la loi Barnier, oui, de 1995. C'est devenu maintenant, j'allais presque dire, une tarte à la crème de l'environnement.
Vous dites principe de précaution. De protection, mais en fait, c'est un lapsus révélateur.
Oui, c'est un
précaution.
C'est
lapsus
un
révélateur.
De précaution.
En voilà. Tout cas, ce alors, principe.
Voilà d'où il vient.
Oui, mais ce principe n'est-il pas aussi la résultante d'une société qui avance vite, toujours plus vite, peut-être trop vite, et qui s'éloigne de ses repères, ouvrant la porte à tous les risques, les débordements ?
Bon, c'est vrai, mais vous savez. Elle l'a toujours quand même un peu fait. Si on avait été paralysé par le principe de précaution dès les débuts de la civilisation, je crois que nous habiterions encore sous des huttes, et que nous boirions de l'eau sale, et nous ferions des choses comme ça. Enfin, écoutez, la technique, le progrès scientifique et le progrès technique ont complètement changé la vie des hommes. et leur a procuré, entre autres choses, mais là on déborde. On déborde sur le domaine de la santé, mais enfin, l'environnement et la santé sont nécessairement très proches.
Absolument liés, oui.
Mais écoutez, le mérite des progrès scientifiques et techniques, il se mesure très simplement à la durée de la vie humaine. Sans principe de précaution, on a tout de même réussi à augmenter dans des proportions énormes la durée de la vie humaine.
Les circonstances étaient différentes au temps où vous étiez aux affaires, je le disais, donc ministre de la Justice entre 62 et 67. Vous avez également été ministre de la Santé publique dans le gouvernement Mesmer, début 70, domaine ô combien sensible sur les questions d'éthique et de conscience publique. Le besoin de principe de précaution n'était pas aussi insistant à l'époque ?
Oh, il était moins insistant à l'époque. On a commencé à en parler, on n'en a pas vraiment parlé avant 1970. Et ça, les premiers, ceux qui ont lancé ça, celui qui l'a lancé ça, c'est Chaban-Delmas, qui a créé dans son gouvernement un ministre de l'Environnement, qui était Mme Robert Poujade. Ce qui était d'ailleurs justifié, parce qu'effectivement, au fur et à mesure qu'on fait des progrès absolument incroyables dans tous les domaines, il est quand même utile de regarder et de prendre des précautions pour que ça, c'est le cas de le dire, pour que ça ne cause pas de danger irréparable.
Vous avez été vous-même confronté, lorsque vous étiez aux affaires, à ce genre de dossier, termes de politique industrielle, par exemple.
Non, pas encore. Il faut dire que moi, j'ai cessé d'être garde des Sceaux en 1967. Oui. Et même comme ministre de la Santé, je n'ai pas vu de grands problèmes de ce genre-là.
Alors, quelle alternative au principe de précaution ? Autrement dit, comment introduire quand même un petit peu de régulation ?
Introduire un petit peu de régulation, c'est ce que le législateur a essayé de faire. Et je dois dire qu'il a essayé de le faire par trois sortes de dispositions. Il a essayé tout d'abord de le faire, nous en avons déjà parlé il y a quelques instants, en écartant l'application du principe de précaution dans le domaine de la santé. Ça va quand même changer des choses, parce qu'il y a des cas où d'ores et déjà, avant la charte constitutionnelle, il y a des décisions de justice qui ont invoqué le principe de précaution en matière sanitaire. Enfin, la règle est donc là, en matière de santé, application, bien entendu, du problème du principe de prévention, mais pas de principe de précaution. C'est la première chose. Ce qui fait d'ailleurs que tout le monde a dit, et certains avaient écrit, que l'application du principe de précaution ne serait que tout à fait exceptionnelle, que ça ne jouerait que dans des cas tout à fait exceptionnels. Vous avez par exemple des développements qui sont intéressants dans le rapport pour avis qui a été déposé au nom de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée par M. Sadier. Il évoque toute une série d'hypothèses en se disant est-ce qu'il y aurait lieu à appliquer le principe de précaution ? Et il répond non. Alors qu'est-ce qu'il envisage ? La pétrochimie, accident allant jusqu'à l'explosion de l'installation. Il nous dit non, pas d'application du principe de précaution. Dans l'environnement pouvant affecter la santé humaine, pas d'application du principe de précaution. Infrastructure des ouvrages, autoroutes et autres, lignes électriques à haute tension, perturbation des habitats de certaines espèces, impact visuel sur les paysages, et ainsi de suite. Finalement, il ne trouve d'application possible qu'à l'interdiction de ces médicaments, de ces produits pesticides appelés gauchos ou régents, qui utilisaient pour sarcler les plantations de maïs, aurait pour effet de tuer les abeilles qui butineraient à proximité. Oui. Par conséquent, on ne paraît donc le considérer que dans des hypothèses où il n'y a pas de risque certain.
Vous écoutez Canal Académie. Canal, Académie.
Chaque semaine, l'Académie des sciences morales et politiques ouvre ses portes à un conférencier. Cette année, l'Académie se penche sur la construction européenne. Les frontières de l'Europe d'un point de vue historique, l'Europe vue du monde arabo-musulman, l'Europe médiévale, l'Europe et les femmes. Radio-Canal Académie vous propose de découvrir les grands sujets traités en séance. Plusieurs fois par jour, retrouvez l'intégralité des séances de l'Académie des sciences morales et politiques en écoutant Radio-Canal Académie.
On retrouve Édouard Rosset.
Jean Foyer, est-ce que ce principe de précaution et son application n'est pas aussi un risque pour l'élu en tant que tel ?
Ah ben, on va y arriver, on va y arriver. Alors, il est évident que l'autorité publique, ce peut être une autorité locale. Alors là, ça a causé une certaine émotion, parce que vous savez que les élus locaux sont très sensibilisés aux problèmes de responsabilité. Ils redoutent beaucoup de se voir imputer des responsabilités pour homicide ou pour blessure par imprudence. Vous avez eu à ce moment-là une grande inquiétude dans les milieux d'élus locaux dans les années 1990.
Émotion légitime d'ailleurs, car l'élu ne peut pas surveiller
tout
partout.
Tout à fait légitime, tout à fait légitime. Mais seulement, on est arrivé maintenant à une judiciarisation pratique telle que personne ne peut plus supporter qu'il ne lui arrive aucun dommage et qu'il faut trouver un responsable à toute éventualité utile. Et lorsque vous n'avez pas en face de vous une personnalité dont la solvabilité soit garantie par une assurance de responsabilité, on essayait de s'adresser à l'autorité publique, à la commune ou au département.
Donc l'élu a bon dos.
L'élu a bon dos. Alors là-dessus, le législateur... Alors vous avez vu, il y avait beaucoup de poursuites et ça paralysait d'ailleurs l'explication. Si vous voulez. Moi, j'en donnerai un exemple qui ne sera peut-être pas à ma louange parce qu'on dira que j'ai été pusillanime dans la circonstance. Mais enfin, j'ai été maire d'une commune et à un certain moment, on m'avait demandé d'installer sur la cour de l'école un toboggan. Ben, j'ai refusé en disant si jamais un enfant se blesse, se casse un os ou même se cause un préjudice plus grave en glissant sur le toboggan, c'est moi qui vais me retrouver devant le tribunal correctionnel sous l'inculpation d'homicide par imprudence ou de blessure par imprudence. Ben non.
Alors, donc vous avez appliqué le principe de précaution finalement.
Je l'ai appliqué, je me suis appliqué à moi-même. Mais enfin, bon. Mais cela dit, alors maintenant, depuis la loi Fauchon, qui est une loi du 20 juillet 2000, le législateur a un peu restreint les conditions dans lesquelles la responsabilité des élus locaux pouvait être invoquée, et ça produit un effet certain. Il y a beaucoup moins de ces poursuites. Mais alors, dans la circonstance, l'Assemblée nationale a quand même voulu apporter une précaution supplémentaire en ce qui concerne les autorités publiques, en disant, et dans les domaines, dans leur domaine d'attribution. Par conséquent, lorsque la décision appartient à l'État, vous ne pouvez pas reprocher au maire de ne pas l'avoir, ou au président du Conseil général de ne pas l'avoir prise, même si le dommage s'était réalisé sur le territoire de votre commune ou de votre département. On a lié l'application du principe de précaution à la compétence d'attribution de l'autorité et de l'autorité locale en question. Voilà.
Oui. Nous parlions tout à l'heure de la régulation. La régulation, il y a de plus en plus d'organismes de régulation aujourd'hui en France, en Europe. Il y a les télécommunications, il y a les communications au sens large. Je ne vais pas citer et faire une liste exhaustive de tous ces secteurs concernés, mais
cette émission n'y suffirait pas.
Effectivement, mais alors, est-ce que finalement, le principe de précaution ne peut pas être ramené à ce principe de régulation. Et finalement, est-ce que la société n'a pas besoin elle-même d'un petit peu de régulation pour avancer normalement, pour avancer droit ?
Oui, mais enfin...
Sans écart, sans excès.
Oui, mais seulement, vous ne pouvez pas contrôler toutes les initiatives au départ. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Vous me parlez tout à l'heure de la recherche. Il y a de la recherche fondamentale, mais il y a aussi de la recherche appliquée. Alors, vous avez des gens qui en réalité, le principal facteur de danger à l'époque contemporaine, à mon avis, c'est la chimie. Vous ne pouvez pas empêcher l'industrie chimique de chercher à mettre au point de nouveaux produits, de nouvelles substances qui peuvent avoir une très grande utilité. Et à l'heure actuelle, vous avez, pourquoi est-ce qu'on a des problèmes d'environnement? Nous en avons. Une des activités que je conserve à l'heure actuelle, c'est celle de président d'un syndicat d'alimentation en eau potable. Bon, ben, un de nos problèmes, c'est que on répand sur la terre à l'heure actuelle des substances qui ensuite s'en vont dans les eaux. Bon, vous ne pouvez pas interdire toute espèce de recherche dans un domaine pareil. Pourquoi ? Parce qu'à l'heure actuelle, dans l'agriculture moderne, la main-d'œuvre humaine a été remplacée d'une part par le moteur à explosion et d'autre part par des produits chimiques. Au lieu de sarcler à la main comme on le faisait autrefois, ben on répand des produits chimiques et puis ça fait le travail. Mais vous ne pouvez pas le supprimer. Alors il faut le limiter, il faut le contrôler, il faut vérifier le degré de nocivité de telle ou telle substance. Vous ne pouvez pas supprimer cette manière de faire, à moins de bouleverser complètement l'agriculture actuelle. Oui.
Le principe de précaution en termes d'impact dans l'opinion publique, est-ce que justement il n'y a pas soit une surinformation et une mauvaise information du public qui irait dans le sens d'un besoin de précaution supplémentaire, toujours plus de précaution, toujours plus de régulation, ou peut-être d'un autre côté un manque d'information sur ce que nous disons depuis le début de cette émission, c'est-à-dire informer les gens des risques de la régulation à outrance?
Oui, mais ça, vous savez, on est en présence d'un problème qui est très difficile. C'est celui de l'information. Premièrement, à l'heure actuelle, je crois qu'on est submergé par l'information. Et il y en a une telle quantité dans tous les domaines qu'on a une grande partie, il y a une grande partie de ces informations qui seraient intéressantes et qui sont complètement dédaignées et qui passent inaperçues. Et le deuxième danger qui résulte de l'information aujourd'hui, c'est que précisément à raison de cette abondance, de cette surabondance d'informations qui sont diffusées, celles qui sont portées à la connaissance du public par les médias, eh bien, elles font l'objet d'une sorte de triage préalable, parce qu'on raconte, on ne parle pas de tout ce qui s'est produit dans les heures qui viennent de se passer. Et qu'aujourd'hui, l'inquiétude créée par tel ou tel événement ou par ou tel fait est considéré comme quelque chose qui vous amène des lecteurs, des auditeurs, des téléspectateurs. Et on parle de ça à ce point que, dans certains domaines, on affole les gens.
Avec le revers de la médaille, effectivement.
Avec le revers de la médaille.
Oui. Et ça, pour vous, c'est un danger de la démocratie?
C'est de la démocratie, c'est plus exactement de ce que j'appellerais de la médiation. Vous n'y pouvez rien. Autrefois, les informations, il n'en circulait pas beaucoup, elle mettait du temps à circuler. Aujourd'hui, en quelques secondes, c'est fait.
Le principe de précaution et son impact sur la stratégie des entreprises, M. Foyer, est-ce qu'il est réel, cet impact? Est-ce qu'aujourd'hui, certaines entreprises sont obligées de revoir leur stratégie d'investissement, leur stratégie de recherche?
Je crois quand même qu'elles le font. Elles ne cherchent quand même pas à se procurer des ennuis. Mais il y a le fait que toute espèce d'initiative a des avantages et a des inconvénients. Et c'est une question de peser, une question de mesure à observer. Et d'ailleurs, on va arriver au troisième point dont je vous parlais tout à l'heure. C'était des modifications qui avaient été apportées par le législateur au texte primitif du projet de loi. C'est le troisième. Les textes primitifs, que ce soit les textes rédigés au départ par les Allemands, la déclaration d'Oriot et autres, on prévoyait surtout des mesures d'interdiction et de suspension. Or, le texte qui a été adopté est beaucoup plus raisonnable, parce qu'en présence d'un risque incertain, enfin, qui peut tout de même se produire, le texte constitutionnel actuel, dit que la première des choses à faire par l'autorité publique, c'est de mettre en œuvre des procédures d'évaluation des risques en question. Et cette évaluation, elle consiste à faire une pesée. Aucune innovation n'est probablement généralement détestable, mais aucune d'entre elles n'est probablement non plus totalement bienfaisante. Alors, il y a une pesée à faire, et ça, c'est la responsabilité de l'autorité publique. Et au fond, c'est un peu ce qu'on a fait depuis le début du siècle, depuis le début des siècles. Et, c'est seul, et d'autre part, les mesures que le principe de précaution prévoit, outre cette procédure d'évaluation qui est quand même le nécessaire, c'est ensuite éventuellement des mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. Alors il y a donc un grand pouvoir d'évaluation et de pesée qui est donné à l'autorité publique. Ben, c'est sa responsabilité, mais ça, qu'est-ce que vous voulez, dans la vie publique et dans l'administration publique, on passe son temps à prendre des responsabilités.
On a bien compris votre point de vue, monsieur le ministre, depuis le début de cette émission, au regard d'ailleurs de l'existence et au regard, avec le recul que vous portez sur cette actualité. Mais quel regard portez-vous sur l'évolution maintenant de cette société avec le principe de précaution en filigrane ? Une société toujours plus administrée, toujours plus étatisée,
bon, et
qui représenterait un danger quelque
d'une
part ?
D'une part, elle voudrait être... Oh ben on est en présence de beaucoup de contradictions, parce que cette société, on voudrait qu'elle soit de plus en plus libérale. Mais d'un autre côté, à beaucoup d'égards, elle n'a jamais été aussi réglementaire. Vous avez l'exemple le plus parfait en est offert par l'Union européenne, dont la philosophie économique est une philosophie libérale, mais qui, sous le prétexte d'assurer la concurrence, de garantir les droits des consommateurs, se crée à longueur d'année des règlements, des directives, etc. etc.
Et plus ça va, pire c'est.
Et qui empoisonne la pratique. Enfin, ça ressemble tout à fait au roman de Swift, Gulliver et les Lilliputiens. Vous avez une bande de Lilliputiens à Bruxelles qui sont en train de tendre des petits bouts de ficelle pour immobiliser Gulliver. Bon, et ce n'est pas seulement le fait de l'Union européenne. Alors ça, c'est malheureusement une des manies du monde, une des maladies, si vous voulez, du monde actuel. Mais il faut quand même, je crois, laisser à ce monde une liberté suffisante, sans quoi... Vous allez le scléroser et vous allez le stériliser.
Vous en parlez encore aujourd'hui avec vos amis académiciens politiques et autres qui sont encore actifs dans la société.
Vous savez, moi je suis persuadé que tout ça, bon, ça ne va pas occuper les esprits pendant très longtemps. Parce que tout passe, on parle d'une question et puis on passe à une autre. Et que dans une certaine mesure... Bon, vous allez dire que je ne suis pas gentil dans mes propos, mais tout ça, c'est un peu de la législation spectacle ou de la législation spectacle. Après tout, le principe de précaution, est-ce qu'il y a maintenant 9 ans qu'il est proclamé par la loi française ? Ben, vous n'en avez pas vu beaucoup d'applications et il n'a pas eu beaucoup de retentissement. Et je pense que ce n'est pas le fait d'avoir mis le principe de précaution dans la charte constitutionnelle adossée à la Constitution qui probablement déclenchera des applications plus grandes.
Donc en conclusion, nous revenons directement au thème de l'émission. Faut-il, et à cette question, faut-il sacraliser le principe de précaution ? La réponse de Jean Foyer, c'est non.
Je serais plutôt David de vous répondre non.
Merci infiniment, Monsieur Foyer, pour votre témoignage. Je vous dis à très bientôt sur Canal Académie.
Canal Académie.
Parce qu'ils ont façonné l'histoire de nos civilisations, ils furent acteurs ou témoins de l'histoire. Leurs travaux et ouvrages nous font traverser les siècles. Historiens, philosophes, économistes, juristes et sociologues s'expriment sur Radio Canal Académie. Les membres de l'Académie des sciences morales et politiques racontent. Retrouvez-les dans Un jour dans l'histoire, une émission de la rédaction de Radio Canal Académie.
La suite de votre programme dans un instant.